Radio Prague, les informations. Bonjour, Donald Tusk était à Prague ce vendredi. La Pologne et la République tchèque souhaitent former un front commun pour défendre la production d'énergie nucléaire. Industrie du luxe, la verrerie tchèque Moser est devenue membre du comité Kolbert. Et puis enfin, 20 000 arbres ont été déracinés dans le parc de la Šumava suite aux orages de mercredi. La Pologne et la République tchèque souhaitent faire défendre ensemble l'utilisation de l'énergie nucléaire au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk était en visite à Prague ce vendredi. Ses entretiens avec le président de la République, Václav Klaus, et le chef du gouvernement tchèque, Petr Nečas, ont été essentiellement consacrés aux questions européennes, et ce dans le contexte de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne, présidence qui a commencé le 1er juillet. Selon Varsovie et Prague, la sécurité énergétique européenne ne peut pas reposer uniquement sur les sources renouvelables. Les deux pays voisins entendent donc former une opposition à des pays comme l'Autriche et l'Allemagne qui ont abandonné ou s'apprêtent à abandonner l'énergie nucléaire. Par ailleurs, Petr Nečas a indiqué que la présidence polonaise de l'Union européenne avait le plein soutien du gouvernement tchèque. Le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, va bientôt présenter au gouvernement son projet de nouvelle conception de la politique extérieure du pays. Le Premier ministre, Petr Nečas, et le ministre de la Défense, Alexandra Vondra, avaient critiqué le texte trop pro-européen, selon eux. L'eurosceptique président de la République, Václav Klaus, avait lui aussi fait part de ses reproches. Karel Schwarzenberg avait cependant manifesté son désaccord, estimant notamment que la République tchèque doit désormais faire valoir, en sa qualité de membre, ses intérêts dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. La verrerie tchèque Moser est devenue membre de l'association du comité Kolbert, regroupant 75 maisons de luxe françaises. Outre la célèbre verrerie tchèque, le comité a intégré fin juin trois autres entreprises, deux maisons allemandes, Montblanc, connu pour ses stylos, et Leica pour ses appareils photos, ainsi que le porcelainier hongrois Erend. C'est la première fois que le comité Kolbert accueille des membres européens. L'entreprise Moser fabrique depuis plus de 150 ans des verreries et des objets décoratifs haut de gamme. Elle dispose d'un réseau mondial de distributeurs. Les violents orages de mercredi soir ont causé le déracinement de plus de 20 000 arbres dans le parc national de la Šumava en Bohême du Sud. Depuis l'ouragan Kirill en 2007, il s'agit des plus importants dégâts causés par la météo. Il y a 4 ans de cela, rappelons-le, près d'un million d'arbres avaient été déracinés. L'information a été communiquée ce vendredi par le porte-parole du parc. Celui-ci a précisé que les employés utilisaient les arbres tombés mercredi comme moyen légal pour lutter contre les scolytes, un insecte xylophage qui ravage le parc de la Šumava, aussi appelé forêt de Bohême, depuis plusieurs années. Le nombre d'étrangers employés en République tchèque augmente régulièrement depuis le début de l'année. Un peu plus de 215 000 ressortissants étrangers travaillaient dans le pays à la fin du mois de juin. Il s'agit toutefois d'une augmentation de près de 6 000 personnes depuis début janvier. Les chiffres ont été communiqués vendredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Les Slovaques restent les plus nombreux avec 103 000 ressortissants, devant les Ukrainiens 37 000 et les Polonais 19 000. On passe à la musique. La 20e édition du Festival international de Český Krumlov en Bohême du Sud débute ce vendredi avec un concert du ténor mexicain Ramon Vargas. Celui-ci est accompagné pour l'occasion de l'orchestre symphonique de la radio tchèque. Outre les concerts de gala avec quelques-unes des plus grandes voix de l'opéra à l'affiche, 15 autres concerts mettant en scène notamment 3 orchestres symphoniques et 11 orchestres de chambre figurent notamment au programme du Festival de Český Krumlov. Celui-ci s'achèvera le 20 août avec un concert du ténor Placido Domingo. On termine avec un mot de météo. C'est un temps presque idéal, ensoleillé, mais pas trop chaud, qui règne sur l'ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Louboches. Les températures varient entre 22 et 26 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Au programme du jour, le peintre Zdeněk Sikora est décédé mardi dernier à l'âge de 91 ans, pionnier de l'utilisation de l'informatique dans la peinture. Le peintre conceptuel est pourtant resté toute sa vie attaché à une idée somme toute classique de la peinture, un classicisme de cœur qui n'a pas empêché d'être un des plus grands peintres abstraits du XXe siècle. Un marché français en plein cœur de Prague attire les amateurs de gastronomie et de produits du terroir français. Nous étions sur place. Bonne écoute de ce programme. L'an dernier, une grande exposition à la galerie de la ville de Prague rendait hommage au peintre Zdeněk Sikora à l'occasion de son 90e anniversaire. Visiblement en forme, malgré son âge avancé, l'artiste s'est pourtant éteint mardi à l'âge de 91 ans. Né en 1920 à Louny, Zdeněk Sikora avait commencé par expérimenter la peinture surréaliste et cubiste. À partir de la fin des années 40, le peintre tchèque commence à s'intéresser à la peinture de paysage, thème qui est resté cher à son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Tomáš Vlček est l'actuel directeur de la collection d'art moderne et contemporain à la Galerie nationale.
Rozhodně patří mezi ty nejvýznamnější umělce druhé poloviny 20. století.
Il fait sans doute partie des artistes les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle. Il a enrichi de manière fondamentale une certaine tendance que personne d'autre n'a autant enrichie. Il s'agit de la création conceptuelle dans le domaine de la géométrie, d'opérations créatives à partir d'un ordinateur. S'il existe une tendance de l'art conceptuel qui utilise la géométrie, celle-ci a fini par s'épuiser. Or, Zdeněk Sikora était un peintre avant tout, qui avait une vraie sensibilité vis-à-vis des paysages et du monde qui l'entourait. Les paramètres de la géométrie et sa recherche incessante était chez lui complètement différent des autres créateurs dans le monde.
Pionnier de l'utilisation de l'informatique dans la peinture, c'est la ligne qui devient à partir des années 70 un des aspects caractéristiques de sa création. La forme de la ligne, son épaisseur, les couleurs et les entrecroisements de ses lacets de peinture sont déterminés par des chiffres générés au hasard par un ordinateur. À cette époque également, fasciné par les mathématiques ou encore la théorie du chaos, Zdeněk Sikora travaille ses tableaux en déterminant le nombre de lignes ou la couleur de sa toile en jetant des dés. Paradoxalement, Zdeněk Sikora affirmait au début de sa carrière artistique qu'il n'aimait pas l'abstraction. Or, c'est justement vers celle-ci qu'il se dirigera par la suite. Tomáš Vlček.
Tout le problème réside dans la notion même d'abstraction. Cette mode ou ce mouvement qui a compté pendant la première moitié du XXe siècle a fini par être dépassé après la Seconde Guerre mondiale. Des tendances contraires ont fait leur apparition. Mais Zdeněk Sikora, lui, a toujours cherché l'ordre. Il n'a jamais été capable d'éliminer une dimension de sa création, l'harmonie. Il admirait Matisse, il admirait les grands peintres. Il ne voulait rien d'autre que de poursuivre leur œuvre.
Certains historiens de l'art ont comparé les peintures de Zdeněk Sikora à de la calligraphie, et ce, en dépit du fait que l'on ne perçoive jamais les traits du pinceau. D'autres mettent aussi en parallèle ses tableaux avec des partitions de musique contemporaine. Une seule chose est sûre, Zdeněk Sikora est resté fidèle toute sa vie aux deux choses qui le fascinaient, les paysages et les sciences. Le musée Kempa a fait savoir qu'il avait l'intention d'organiser une exposition des œuvres du peintre disparu. Dès le lundi 18 juillet, les espaces du musée proposeront près d'une vingtaine d'œuvres graphiques ainsi qu'un tableau de Zdeněk Sikora en hommage au travail d'une vie. Aujourd'hui, les œuvres de Zdeněk Sikora font partie des plus grandes collections mondiales. D'ailleurs, il est, après František Kupka, le deuxième artiste tchèque à avoir une de ses œuvres au Centre Pompidou à Paris. Le récent boom des marchés fermiers a rendu les Pragois fans des marchés en général. Pour la troisième année consécutive, ils ont aussi l'occasion de visiter le marché des spécialités françaises au centre-ville et de goûter à tous les symboles gastronomiques de la France. Vin, fromage ou crêpes, Hanna Niemeczkova était sur place.
Quand on est vendeur de fromage en République tchèque, le 14 juillet ne pouvait être qu'une journée de travail pour Gal Danilo. Au moins, il avait la chance de passer cette journée en dehors de sa petite boutique de fromage du quartier de l'Etna à Prague, car depuis jeudi jusqu'à la fin de la semaine, il participe au marché des produits français organisé à l'occasion de la fête nationale. Situé dans le charmant décor de l'île de Kempa au centre de Prague, ce petit marché a pour ambition d'attirer des Tchèques, des expatriés français ou tout simplement des touristes curieux de goûter des spécialités françaises. Pour Gaia Dandolo, les Tchèques achètent principalement des fromages durs et plutôt forts en goût. À mi-course, il évalue le déroulement du marché.
Pour l'instant, c'est le début du marché, donc on verra. Le temps est plutôt comme il faut. Il fait ni trop chaud, ni trop froid, donc c'est plutôt idéal.
Le marché français a été organisé pour la première fois il y a 2 ans, à l'occasion des présidences successives de la France et de la République tchèque à la tête de l'Union européenne. Thomas Bouton, qui avait déjà une expérience d'organisation des marchés à Prague, a décidé de continuer l'aventure. Et même l'année dernière, le marché a été un succès. Thomas Bouton nous a parlé de l'offre gastronomique et culturelle de cette année.
Les produits, alors on essaie d'avoir un petit peu de tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement, on a 2 stands de fromage, on a de la salaison, on a beaucoup de vin, toutes les régions du vin sont représentées. Et puis, on a aussi quelqu'un qui nous fait cette année des fruits et légumes marinés, et on a aussi quelqu'un qui nous fait des saveurs et des parfums et des savons à base de lavande. Tout à l'heure, là, tous les jours à midi, on a Mathieu, qui est un accordéoniste français installé à Prague. Qui va venir faire un récital de chansons françaises avec normalement Marc qui chante. Et après, les après-midi, on a une programmation un peu plus élargie parce qu'on estime que c'est sympathique d'avoir aussi d'autres musiques. Donc on a du jazz, on a un très bon groupe de jazz à 14h cet après-midi. Et ce soir à 17h, on a Doudou Morales qui est un percussionniste brésilien qu'on a sur chaque marché mais qui à chaque fois a un succès fou. Donc on aime faire passer les gens qui ont du succès, voilà.
Beaucoup de visiteurs sont venus par hasard ou grâce à des amis qui font marcher le bouche à oreille. Thomas Bouton reconnaît que l'emplacement du marché amène aussi pas mal de touristes. Après tout, il s'agit surtout de participer à l'atmosphère détendue du marché, savourer du vin et des fromages et faire de la chaise longue. C'est ce que fait aussi Dominika Pardiova, jeune étudiante tchèque de l'administration publique à l'université de Rennes. D'habitude, elle passe le 14 juillet avec ses amis en France, mais cette année, elle passe l'été à Prague et elle visite le marché.
Oui, c'est assez bien. Le fromage, le vin, ça me plaît beaucoup. C'est une idée superbe, je pense. On peut se promener, on peut parler un peu avec les Français, ce qu'ils font ici. On peut bien s'amuser, je pense.
Et les Français à Prague, est-ce qu'ils ont la nostalgie des fêtes du 14 juillet ? Réponse de Thomas Bouton.
J'ai une petite nostalgie des bals populaires la veille du 14 juillet, parce qu'en général, on rigolait quand même pas mal. Et puis, c'était vraiment j'aimerais faire ça, d'ailleurs, un jour. J'aimerais réussir à recréer cette atmosphère de bals populaires ici à Prague. Alors, c'est pas toujours très facile, malheureusement, à cause des autorisations, etc., etc. Et en plus, j'ai envie de dire, si on veut faire quelque chose d'assez pittoresque, ça nous demanderait d'avoir des musiciens qui puissent faire certaines choses. Donc, ça demande beaucoup de temps de préparation. Donc oui, j'ai un petit peu la nostalgie des petits bals populaires du 13 juillet au soir ou du 14 juillet au soir avec nos amis les pompiers. C'est toujours des moments sympathiques où on rigole bien et on boit un peu de vin. Mais voilà, peut-être qu'on va réussir à faire ça un jour à Prague.
Voilà, c'était un reportage de Hanka Niemeczkova. Vous avez encore le temps de visiter le marché français jusqu'à la fin de ce week-end, tous les jours de 10h à 19h sur l'île de Kampa. Dans la suite de notre programme en français, il sera question d'économie. Le français d'origine tchèque Konstantin Kinsky dirige la branche tchèque du cabinet de consultant Roland Berger. Un cabinet qui a récemment proposé que soit fondée une agence européenne de notation indépendante. Konstantin Kinsky a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Économie, commerce.
Konstantin Kinsky, bonjour. Vous êtes le directeur de la filiale République tchèque du cabinet de consultants Roland Berger. Première question, est-ce que vous sentez chez les Tchèques une peur de l'effet domino après ou pendant cette crise grecque ?
Oui, bonjour. Non, pas du tout. Le système bancaire tchèque s'est restructuré dans les années 90, début des années 2000. Il est extrêmement solide. La crainte, elle est plus similaire à celle de la population allemande, à savoir de déterminer si vraiment il est raisonnable que le contribuable tchèque aide d'autres pays à se sortir de la crise, alors que la perception, c'est que ces pays sont rentrés dans la crise de leur fait. Et donc, il y a un débat entre la nécessité d'une certaine solidarité et puis la nécessité de respecter l'orthodoxie budgétaire, qui est une caractéristique de la tradition financière de ce pays.
Il y a un ancien ministre des Finances tchèque qui a indiqué très récemment que selon lui, la zone euro se dirigeait vers une nouvelle zone euro où on laisserait de côté, en quelque sorte, des pays du pourtour méditerranéen et le Portugal pour ne laisser que les pays dont l'économie reste en forme.
Oui, c'est ça. Revient à la question que je posais au départ, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postures qui sont prises et elles sont légitimes parce que nous parlons d'une négociation par un certain nombre de pays qui cherchent à promouvoir une orthodoxie budgétaire ferme. La tradition tchèque est une orthodoxie budgétaire totale. Je crois qu'on va s'orienter vers un débat plutôt entre Keynes et les classiques, à savoir d'instituer une discipline budgétaire dynamique qui nous permette de relancer les économies par la dette en cas de récession, mais qui assure que quand les temps deviennent meilleurs, on revienne à des équilibres budgétaires plus sains. Et c'est ce débat-là qui est en cours à l'intérieur de l'Europe, et la voie tchèque est évidemment une voie qui promeut l'orthodoxie budgétaire dans ce concert.
Est-ce que c'est une bonne chose, une très bonne chose, que la République tchèque ne fasse pas partie de la zone euro par les temps qui courent ?
Bonne chose, très bonne chose, c'est difficile à dire parce que on n'a pas vraiment de comparaison ou les comparaisons sont incomplètes. La Slovaquie en a souffert au départ, mais s'en sort maintenant plutôt bien. La stabilité est une chose que les Tchèques aiment bien et la difficulté, c'est aujourd'hui de faire comprendre que l'euro est un facteur de stabilité et que les difficultés en cours n'ont rien à voir avec l'euro, mais à voir de nouveau avec les politiques budgétaires, avec le perçage des bulles financières et que chacun des pays a une situation différente, que la Grèce a connu un certain nombre d'excès incontrôlés, alors que par exemple l'Espagne avait des finances publiques extrêmement saines et qu'elle s'est retrouvée prise à la gorge par une crise de la dette privée qui a été remontée dans les comptes publics par l'intermédiaire des banques du fait de l'effondrement du marché hypothécaire en Espagne. Donc chaque cas est différent et il faut revenir à l'analyse des fondamentaux et isoler le fait que la solidarité monétaire européenne est une chose pour la stabilité, mais qu'elle implique une certaine cohérence des politiques qui n'est pas encore en place.
En tout cas, on peut dire que cela ne va pas accélérer l'entrée de la République tchèque dans la zone euro.
Ah, ça c'est certain que le scepticisme traditionnel d'une part large de la population tchèque vis-à-vis des grands frères et de tout ce qui ressemble à des institutions transnationales en sort renforcé. Cela dit, les Tchèques sont des entrepreneurs, ce sont des pragmatiques, c'est une culture d'ingénieurs et donc je pense qu'on aura l'occasion de juger sur pièce et sur place les mérites de l'entrée dans l'euro de façon plus calme une fois qu'on aura trouvé les moyens de sortir de la crise actuelle.
Alors, on parle beaucoup, Constantin Kinski, en ce moment et depuis quelques mois et quelques années déjà, du rôle des agences de notation. Et votre cabinet, le cabinet Roland Berger, est en train de se mobiliser pour qu'une agence de notation européenne, cette fois-ci, voit le jour.
En effet, nous sommes le seul cabinet de stratégie de dimension globale qui soit d'origine européenne. Tous nos concurrents sont d'origine américaine. C'est la même chose pour les agences de rating. Ce domaine qui est extrêmement important pour la protection des investisseurs est dominé par trois géants américains qui utilisent tous la même méthodologie, qui viennent tous du même endroit et qui surtout ont un comportement qui a contribué à la crise, qui est en partie lié au fait qu'ils sont rémunérés non pas par les investisseurs, non, mais par les émetteurs. Et nous souhaitons, en tant que cabinet de stratégie européen, qu'il y ait une voix européenne dans ce jeu, que ce cartel soit cassé, que nous ayons, nous, le droit, en tant qu'Européens, de donner notre opinion, et que cette opinion, elle soit fonction des intérêts des investisseurs, et donc que le modèle de rémunération permette que cette agence de rating soit financée par les investisseurs de façon permettre qu'il y ait une voie alternative à la voie américaine. Nous ne souhaitons pas obliger le monde entier à adopter le modèle européen. Nous souhaitons simplement qu'il y ait la possibilité qu'un modèle européen s'installe et puisse faire concurrence à ce modèle américain en ayant l'intérêt de la stabilité du secteur financier européen à cœur et en ayant les intérêts des investisseurs à cœur en premier lieu.
Alors c'est votre cabinet est un cabinet allemand et cette agence serait, si elle voit le jour, basée à Francfort. Quelles sont les réponses obtenues de la part de l'Union européenne et des différents États membres jusqu'à présent ?
Alors, nous sommes un cabinet d'origine allemande. Effectivement, monsieur Roland Berger est bavarois, mais nous sommes très largement un cabinet européen et global. Un troisième plus gros bureau, par exemple, est en Chine. Cela dit, il est évident qu'en Europe, le centre des discussions financières, il est plutôt en Allemagne, avec la Fed, en partie avec la Banque Centrale Européenne en particulier. Et deuxièmement, que ce débat, il est alimenté par un certain souci d'une orthodoxie budgétaire pragmatique qui est aujourd'hui alimentée par l'axe franco-allemand, malgré les péripéties de ce débat. Et donc, il est naturel que ce débat trouve son origine à Francfort. Il y a un certain nombre de soutiens qui commencent à se déclarer, ce qui est très intéressant, la région de Hesse, Francfort, etc. Il y a aussi un certain nombre d'oppositions qui est encore plus intéressant, puisque nous sommes de l'avis que dans tout village, il y a un certain nombre de braconniers. Et quand le braconnier commence à dire que la nouvelle loi contre le braconnage va créer des problèmes, c'est plutôt bon signe. Donc nous sommes sereins sur notre message et nous essayons de contribuer au débat de façon à ce que l'Europe se donne une chance supplémentaire de trouver une solution structurelle à la nécessité de renforcer la stabilité et la transparence du marché financier.
Constantin Kinsky, je rappelle que vous dirigez la branche tchèque du cabinet Roland Berger. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir et bonne journée.
Voilà, Constantin Kinsky qui était l'invité de la rubrique économique de ce vendredi. C'est ainsi que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet au www.radio.cz/fr. Retrouvez-nous également pendant tout le week-end avec vos rubriques habituelles le samedi et le dimanche. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.